en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Claude Lorius, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans les locaux de Canal Académie, au cœur de l'Institut de France, pour cet habit vert qui vous est consacré. Un habit vert puisque vous êtes académicien dans la section des sciences de l'univers, et de cela depuis 1994, et membre correspondant depuis 1987. Alors Claude Lorius, vous êtes né en 1932 à Besançon. Actuellement, vous êtes donc la région polaire de cœur et d'activité, comme vous me le disiez tout à l'heure. Vous êtes diplômé d'études supérieures de physique, docteur S sciences physiques, et vous vous êtes intéressé dès les années 50 à une nouvelle science qui a fait son apparition, qui est donc la glaciologie.
D'abord, je me suis intéressé en fait aux régions polaires. Je ne suis pas parti là-bas pour
d'autres
raisons.
Voilà, au départ, vous partez barouder.
C'était l'exploration, c'était la découverte. Mais il se trouve bien sûr que dans les régions polaires, et notamment l'Antarctique, il n'y a que de la glace.
Il fallait bien faire quelque chose.
Alors, c'est un métier qui vient naturellement, effectivement.
Alors, vous êtes donc un baroudeur du froid, puisque pendant près de 40 ans, vous allez enchaîner les expéditions polaires, que ce soit au Groenland ou en Antarctique. Et vous totaliserez 22 campagnes, soit 6 ans au total passés sur le terrain, ce qui n'est quand même pas rien. Donc nous allons pouvoir, sans plus tarder, mettre nos gants, notre écharpe et notre bonnet pour vous accompagner dans ces expéditions que vous avez menées et aussi les découvertes qui en découlent. Claude Lorius, on remonte le temps, on remonte et on arrive tout d'abord en 1955 où, pour anecdote, vous commencez votre métier finalement suite à une petite annonce. Que vous
oui,
trouvez.
Non, 55, je commence rien. Je lis une annonce à l'université.
Et alors, cette petite annonce, elle dit « Recherche, jeune chercheur pour participer aux campagnes organisées par l'année géophysique internationale ». Au départ, vous étiez à la fac.
Oui,
vous
physique, chimie.
Et puis, vous répondez à cette annonce.
Oui.
Qui, au départ, vous intéressait ou c'était plus le fait déjà de partir, comme vous me le disiez tout de suite ?
C'était d'abord de partir. Et ensuite, en fait, interview, discussion, on m'offre deux possibilités. Tamanrasset, et vous savez où c'est, il fait bien chaud. Et l'autre chose, c'est la Terre Adélie, avec une expérience un peu particulière, vivre pendant un an, trois personnes isolées. Et c'est ça qui m'a séduit.
Donc vous avez préféré le froid à la chaleur?
Non, j'ai préféré l'isolement et l'expérience hors du commun. Tamanrasset, c'était déjà civilisé.
Vous décrivez l'Antarctique comme étant un désert froid inhospitalier, donc au départ, quelque chose qui peut rebuter. Et comme vous le dites, donc, vous vous intéressez à ce milieu pour vous retrouver un peu isolé.
Enfin, pas forcément pour me retrouver isolé, mais pour découvrir un milieu. L'Antarctique, c'est, si on a fait cette année géophysique à l'époque, donc il y a une cinquantaine d'années, c'est parce que c'était le dernier endroit sur Terre où l'on ne connaissait pratiquement rien de choses élémentaires.
Justement, arrive à cette même période la science, la glaciologie, et vous allez pouvoir peut-être nous expliquer à quel moment ça arrive, pourquoi et quel rôle vous allez pouvoir jouer dans cette nouvelle science.
Écoutez, la glaciologie, c'est une science qui se développe un petit peu en France. Il y avait à Grenoble le professeur Liboutry, là, qui s'occupait beaucoup, notamment des glaciers alpins. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on décide de faire un grand programme sur l'Antarctique, c'est 15 millions de kilomètres carrés couverts par la glace,
qu'on
par des kilomètres
pas.
De glace qu'on ne connaît pas. Donc c'est sûr que ça devient un thème central pour cette année géophysique. Connaître le dernier continent sur lequel on n'a pas beaucoup d'idées, à part les explorateurs comme Scott, Amundsen ou Charcot, qui sont allés jusqu'au pôle, mais sur le plan connaissance, je veux dire, on n'avait rien.
Justement, donc, vous allez suivre une équipe, vous êtes alors étudiant, et vous ne savez pas forcément ce qui vous attend.
Bon, attendez, ça ne se présente pas exactement comme ça, parce qu'on est quand même un petit peu organisé. Ça veut dire qu'avant de m'envoyer là-bas, on m'envoie en stage un petit peu au Groenland, où je fais une petite campagne pour faire connaissance avec le milieu polaire, et puis commencer à prendre contact avec la neige. Je fais aussi un petit stage dans les Alpes françaises, en Suisse, à Davos.
Pour permettre de voir si vous êtes apte aux conditions qui sont certainement très difficiles.
Ben pour me former un peu à la glaciologie, parce qu'effectivement, pour recruter, mettons, trois personnes qui doivent vivre ensemble pendant un an dans une base, le recrutement, il y a de sévères interrogations sur la qualité des gens. On recrute le chef d'abord, ensuite le premier jeune, et c'était moi, et ensuite le deuxième jeune, mais il faut à chaque fois avoir l'accord de tous, et puis il faut se fréquenter, il faut être sûr qu'on ne va pas dans cette espèce de huis clos, parce que passer un an complètement isolé dans une petite base de 20 mètres carrés, bon, ça peut être humainement difficile. Donc, il y a beaucoup d'efforts de sélection qui sont faits. Et je dois dire que pour nous, ça a été une réussite.
Alors voilà, vous avez été testé,
oui.
Puis accepté.
Oui, puis
au sein
formé
de l'équipe,
un peu à
formé, bien sûr.
Voilà.
Formé à la glaciologie. Et vous vous installez alors dans la station Charcot, à planter sur l'Island 6 Antarctique. Alors, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'Island 6 Antarctique?
Oui, d'abord, je vais rappeler quand même ce qu'est le commandant Charcot, qui est un des pionniers de l'exploration polaire française, d'une part en Antarctique. Vous savez qu'il est mort lors d'une expédition au Groenland, dans laquelle d'ailleurs il avait emmené Paul-Émile Victor. Paul-Émile Victor, bien sûr, n'est pas mort dans cet incident. Donc la base Charcot, c'est un petit peu symbolique. Vous savez, la base côtière en Terre Adélie, c'est la base Dumont d'Urville. C'est 1840, c'est là la découverte de la Terre Adélie. Et ensuite, l'autre grand nom, c'est quand même le commandant Charcot. Donc une base. À l'époque, il y a un certain nombre de pays, pour l'année géophysique, qui ont décidé d'implanter des bases. La plupart des bases sont situées sur la côte. C'est beaucoup plus facile d'accéder à la côte. La France, mais elle n'est pas la seule, les Russes aussi, les Américains l'ont fait. La France décide d'implanter une petite base à l'intérieur, à 2400 mètres d'altitude, à quelques centaines de kilomètres de la côte, où la température moyenne est moins 40, et où il faut tout amener pour survivre. C'est donc à cette aventure que j'ai eu la chance d'être mêlé, simplement parce que Bertrand Humbert, qui m'a recruté à l'époque, et c'était sous les auspices de l'Académie des sciences déjà, eh bien, m'avait retenu. Et donc, l'aventure, c'était ça.
Donc, vous arrivez dans cette fameuse station Charcot, dans ce qu'on appelle l'Island 6 Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Island 6?
L'Island 6, si vous voulez, ça vient d'un terme danois qui est la glace au milieu des terres. Ça veut dire que l'Antarctique, c'est un continent, il y a effectivement des roches, mais sur ces roches, il y a plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace.
3000 mètres?
Le record, c'est 4400 mètres. Mais si vous voulez, en moyenne, il y a 2,5 km de glace sur quelque chose qui est à 15 millions de kilomètres carrés. Ça veut dire qu'il est grand comme l'Europe. Et donc, bien sûr, on est là toujours sous la glace.
Dans cette station Charcot, donc Jordi, c'est donc en 1957, vous y restez combien de temps et qu'est-ce que vous allez faire pendant tout ce temps-là?
Tout ce temps-là, le temps ne m'a jamais semblé long. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va rester en gros un an, si vous voulez. Bon, on se
un
met
an coupé
en place.
Du monde?
Presque coupé du monde. Il y avait quand même la base côtière. Ce qui nous est arrivé, c'est que effectivement cette base était équipée comme source d'énergie d'une éolienne. Et dès que la température est tombée en dessous de moins 45, l'éolienne est tombée en panne. Bon, on a mis pas mal de temps à récupérer un groupe électrogène qui était enfoui sous la neige parce que on n'avait pas d'endroit où stocker le matériel. Donc on est resté plusieurs mois effectivement sans électricité.
Donc des conditions de vie très difficiles.
Sans relation radio. Avec notre base côtière et bien sûr avec le monde, avec nos familles.
Vous étiez trois scientifiques là-bas sur place?
Dans un groupe comme ça, la philosophie c'était d'avoir un chef ingénieur qui avait l'expérience des conditions de vie en Antarctique. Et puis nous étions deux jeunes, Roland Schlich et moi, qui sortions de l'université. Donc sans aucune expérience pratique. Quand même avec beaucoup de motivation.
Alors justement, beaucoup de motivation. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces un an? Coupé du monde, avec des conditions de vie très difficiles.
Pour ce qui me concerne, d'abord la première chose, c'est d'assurer la vie. Assurer la vie, ça veut dire entretenir un moyen de chauffage, des poêles à fioul, ça veut dire faire fondre de la neige pour avoir un peu d'eau, on faisait pas souvent la vaisselle bien sûr, avoir une génératrice à main pour pallier au fait qu'on n'avait plus d'électricité pour envoyer un très court message à la base côtière qui voulait entreprendre un raid très risqué parce qu'il croyait qu'on était en perdition. Donc d'abord beaucoup de temps pour assurer la vie. Et puis ensuite, ben, ce sont des choses élémentaires. Vous êtes dans un endroit, première question, c'est combien vous avez de glace sous les pieds. Bon, donc il y a des campagnes qui sont faites pour ça. Là où j'étais, 2400 mètres d'altitude, à peu près 2500 mètres d'épaisseur de glace. Ensuite, quelle est la température moyenne du lieu? On ne sait pas. On arrive, il n'y a jamais eu de station. Alors il y a des astuces, on fait un trou dans la neige, on le descend à 15 mètres de profondeur, on a un thermomètre qui dit voilà la température moyenne annuelle du lieu, et bien sûr on enregistre cette température qui va conforter le fait que après, quand on va se balader, on mettra un thermomètre et on aura la température dans un trou et on aura la température moyenne annuelle du lieu. Et puis, combien tombe de neige? Ça paraît pas évident. Donc là où on était, il tombait l'équivalent de 15 cm de neige sur un an. Donc c'est vraiment des données de base, je ne parle pas de la météo, les vitesses de vent, des choses comme ça. Et l'intérêt de cette station, et surtout Roland Schlich qui travaillait là-dessus, c'est qu'on était sur un des pôles magnétiques de la Terre. Donc il y avait beaucoup de phénomènes liés aux interactions entre le rayonnement extraterrestre et notre planète. C'est une zone, par exemple, où on observe les aurores. Donc voilà à quoi en gros on s'occupait, on passait pas beaucoup de temps sur la cuisine, on n'avait pas grand chose à lire, moi j'avais bien emmené des disques, un tourne-disque, mais on n'avait pas de courant, et puis j'avais emmené une guitare, mais dès que, comme j'étais vraiment pas doué, au bout de quelques temps, les copains m'ont dit donc, cette guitare, tu veux pas la laisser dehors, bon. Dès qu'on ouvrait la porte des 20 mètres carrés, il faisait moins 40 dans les couloirs qu'on avait creusés pour conserver les vivres, par exemple, ou des choses comme ça.
Et à cette époque, alors, vous étiez les seuls scientifiques sur place ou il y avait déjà d'autres nationalités?
Enfin, ce que vous appelez sur place, je ne sais pas, l'Antarctique, c'est 15 millions de kilomètres carrés. Il y avait effectivement quelques pays qui avaient implanté des bases à l'intérieur du continent. Les Américains au pôle sud, les Français, donc, à l'un des pôles géomagnétiques, et les Russes à ce que l'on appelait le pôle d'inaccessibilité, l'endroit le plus difficile à atteindre, le plus haut, le plus froid, dans une station dans laquelle j'irai plus tard,
Vostok,
qui s'appelle la station Vostok. Donc il y avait, comme vous voyez, la France était très présente, il n'y avait pas beaucoup de bases à l'intérieur, mais la France était bien là.
Donc au bout d'un an, vous revenez en France. Et puis, vous repartez?
Alors, quand on rentre en France, bien sûr, on attrape des tas de microbes, parce que là-bas, on n'est pas... D'abord, avant de partir, il faut savoir qu'on enlève les dents de sagesse, on n'a pas de docteur, ni de chirurgien, ni isolé.
Il faut éliminer au mieux toutes les maladies qui seraient potentielles.
Les dents de sagesse et tout, bon. Et alors après, quand on rentre, bien sûr, on n'est pas immunisé, donc on ramasse la moindre grippe. Mais enfin, ça, tout ça, c'est
Alors,
ça,
vous
ça
rentrez
range.
Certainement amaigri, certainement avec une autre vision...
Avec une autre vision, comme dans chacune de ces grandes expéditions, mais une autre vision qu'on perd rapidement. Trop rapidement, à mon goût. Parce que quand on revient, on est émerveillé par tous ces paysages. Vous savez, voir du blanc pendant un an, rien qu'en revenant à la côte de Terre Adélie, où on voit des manchots, des oiseaux, l'océan, c'est vraiment une redécouverte, quoi. Et ça, on oublie, je pense, trop vite. Ce sentiment, justement, de la nature qui est autour de nous est bien vivante. Donc on revient, oui, on revient.
Vous venez en France et vous repartez?
Ah ben oui, parce que là j'ai une proposition.
Vous
auriez
pu en avoir assez, parce qu'un an c'est quand même pas rien.
Vous
auriez
pu être
vacciné.
J'ose pas dire que j'ai passé un an et que j'étais volontaire pour passer une deuxième année, mais que mes chefs n'ont pas voulu. Ils trouvaient que c'était complètement insensé de faire passer deux ans un jeune comme moi dans ces endroits un peu inhospitaliers. Donc je suis rentré, mais je suis rentré et je suis reparti parce que j'avais une occasion assez extraordinaire. J'ai participé à un raid d'exploration avec une équipe américaine.
Alors voilà, donc on y arrive en 1959. Là, cette fois-ci, vous n'êtes plus dans une station, vous partez en raid. pour 1400 km à peu près, ce qui n'est quand même pas rien.
Oui, oui, parce qu'on n'avance pas vite, vous savez, 1400 km en moyenne, on a mis plus de 100 jours. On a découvert des chaînes de montagnes et là, on fait ce que... Dans l'espace, on fait une exploration, un peu ce qu'on avait fait à la base Charcot. On met un thermomètre pour savoir dans le trou, pour savoir la température qu'il fait. On essaie de mesurer les quantités de neige. On mesure les épaisseurs de glace. Vraiment, donc, des données fondamentales.
Et vous pouvez vous également cartographier également des montagnes?
Cartographier. Le problème qu'on a eu dans ce raid, c'est qu'effectivement, en fin de piste, on pensait rentrer à la côte, et puis devant nous, tout d'un coup, il y a une chaîne de montagnes qui n'était pas cartographiée. Et on n'avait pas tellement les moyens de cartographier toute la chaîne, mais on s'est trouvé un petit peu dans une impasse. Il a fallu que les Américains envoient des petits avions pour nous sortir de là. Mais au moins, il est resté quelque chose, c'est un Mont Laurius, parce que les Américains, eux, ils n'hésitent pas à donner des noms, même de sites, même à des personnes vivantes, ce qui n'est pas la norme en France.
Donc vous avez un mont qui porte votre nom.
Voilà, mais quelque part.
En Antarctique.
En Antarctique, oui.
Pour faire ce raid, lorsque vous faites ce raid, vous récupérez des petits échantillons qui vont peut-être encore servir actuellement. Ils sont utilisés comme base pour connaître la température et la concentration des aérosols. Et de cela, vous allez en faire une thèse en 1963.
Oui, ce raid a notamment permis une chose. Je vous ai dit, on arrive quelque part, on ne connaît rien. On prend un thermomètre, on a la température du lieu. Et on mesure la composition qu'on appelle isotopique de la glace. La glace, c'est de l'eau solide. Il y a des atomes d'hydrogène, des atomes d'oxygène. On va mesurer ça à notre retour en France. Et ce que laissait prévoir un peu la théorie, on trouve qu'il y a une relation entre la composition isotopique de cette glace que l'on fond et la température. Et évidemment, tout d'un coup, ça ouvre des portes assez extraordinaires parce que maintenant, plus tard, quand on va aller forer dans des endroits pour remonter dans le temps, pour retrouver la glace qui s'est formée il y a des centaines de milliers d'années, en faisant cette analyse, on est capable de dire la température qu'il a fait dans le passé. Et donc, c'est quelque chose qui avait une petite base théorique, mais c'est surtout empirique qu'on a trouvé ça. Depuis, on l'a conforté, tout ça, il y a des tas de modèles. Bon. Mais la découverte, elle est là.
Donc une grande découverte.
On sort d'un raid comme ça avec le fait de dire on a un morceau de glace, on est capable de dire la température qu'il faisait au moment où cette glace s'est formée.
Voilà. Donc vous avez sur cette carotte les différentes couches saisonnières au fur et à mesure des millénaires.
Donc là, on est dans le stade ultérieur, c'est-à-dire qu'on va se mettre après à forer et à aller en profondeur. Jusque-là, on vient de dire, on est quelque part, la température s'étend, la moyenne de la neige qui tombe, elle a une telle composition.
Vous en êtes encore au constat, en fait. Vous êtes sur...
On en est établir une relation vraiment expérimentale qui va nous permettre d'aborder la reconstitution du climat et en particulier de la température.
Jusqu'en 65, vous continuez les expéditions, vous ne vous lassez pas, vous partez encore, toujours. Donc en 65, vous arrivez à la base côtière française de Terra Deli, et là-bas, vous allez pouvoir réussir un forage beaucoup plus profond, celui-ci, de 100 mètres de profondeur.
Oui.
Bon, vous permettre.
Si vous voulez, dans ce cursus, c'est vrai qu'on a fait là des petits forages dans la glace côtière qui ont montré qu'on avait de la glace qui venait de très loin. Bon, ça donnait un aperçu. Mais pour ce qui me concerne, l'essentiel de ma vocation et de ma formation, c'était de diriger une base d'une vingtaine de personnes isolées complètement pendant un an. Et croyez-moi, c'est qu'une affaire assez intéressante. Mais bon, c'était beaucoup plus confortable qu'à la station Charcot, bien sûr. Mais donc, quand même, il y avait cette idée, être capable de mener, de diriger une expédition pour pouvoir ensuite monter d'autres projets. Et puis, on commence à faire des petits forages, effectivement, dans la glace côtière.
Ou alors, vous arrivez à voir qu'il faut près de 500 000 ans à un flocon de neige tombé dans les régions centrales pour se retrouver dans un iceberg flottant sur l'océan. 500 000 ans.
Bon, ça, c'est un petit peu, bien sûr, un raccourci. L'idée, vous comprenez bien, c'est qu'un flocon de neige qui tombe à l'intérieur, il va se transformer en glace et puis il va s'écouler vers la côte. Et quand on se trouve vers la côte, qu'on voit une moraine qui atteste que de la glace lointaine est venue là, eh bien on est capable de dire, oui, ben, la température à laquelle s'est formée cette glace, effectivement, c'était celle de l'intérieur de l'Antarctique. Et en gros, bon, on calcule, il y a des modèles, oui, il faut des centaines de milliers d'années pour qu'un flocon de neige qui tombe au centre de l'Antarctique se retrouve sous forme d'iceberg flottant sur la mer. Et ça nous donnait une espèce d'échelle de ce qu'on pouvait trouver en faisant des trous dans la glace, justement, les centaines de milliers d'années.
On marque une courte pause, Claude Lorius, on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre abivert. A tout de suite.
Marcher sur les traces de Théodore Monod, immortel de l'Académie des sciences, à la fois anthropologue, linguiste, océanographe, géologue, botaniste et philosophe, Théodore Monod a rempli sa vie de 70 années de traversée dans le désert, alignant des distances de 900 km de marche. Récit de cette vie d'aventure avec Roger Kans dans une émission Parcours en libre téléchargement sur Canal Académie.
Suite de notre abivert en compagnie de Claude Lorius, glaciologue et académicien des sciences dans la section sciences de l'univers. Claude Lorius, on vient déjà d'évoquer une partie de vos recherches, de vos découvertes entre 57 et 65. Alors ce qu'on n'a pas dit quand même, et c'est important, c'est que quand vous partez comme ça en Antarctique ou même au Groenland au départ, quand vous êtes formé, c'est le décor, c'est l'univers dans lequel vous êtes plongé qui est fantastique.
Oui, je crois que la première arrivée en Antarctique, par exemple, c'est quand même assez extraordinaire. Voir les premiers icebergs approcher des côtes. Il fait beau, il fait mauvais, c'est la tempête. Et puis tout d'un coup, voir le continent blanc qui va jusqu'à l'infini. Et en plus, à la base du Mont d'Urville, on a la chance d'avoir une colonie de roqueries et de manchots. Il y a des manchots Adélie, des manchots empereurs. C'est vraiment tout à fait un autre monde. Et pour moi, c'est un choc. Et donc, retourner en Antarctique, c'est toujours un rappel de ce choc. Ça correspondait bien à cette idée que j'avais de partir pour voir ce continent.
Une nature qui n'est pas encore entachée par la pollution humaine ou autre.
L'Antarctique n'est pas tellement touchée, vous savez, encore voilà. Par la pollution, à part les problèmes de gaz à effet de serre dont on va parler tout à l'heure. Mais c'est surtout le fait que ce sont des paysages tout à fait inhabituels. Quoi.
Le silence aussi.
Le silence, oui. Bien sûr, il y a le bateau. Mais oui, le silence, le vent, parce que le silence, vous savez, la Terre Adélie est réputée pour ses vents violents, qu'on appelle des vents cadabatiques, qui parfois soufflent jusqu'à 300 km/h. Mais c'est vrai, donc c'est un choc, et même quand on y retourne, après on passe la nuit sur le pont à guetter le premier iceberg et le premier manchot qu'on va voir de dériver et partir pour ces mois de séjour en mer.
Claude Lorius, au fil des années, vous constituez donc une petite équipe dont vous nous avez parlé juste avant notre pause, avec laquelle vous retournez à Grenoble, au laboratoire de glaciologie du CNRS. Et ce laboratoire s'enrichit de la particule environnement, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc c'était laboratoire de glaciologie du CNRS. Et là, ça devient laboratoire de glaciologie et environnement du CNRS. Ça a une valeur particulière, je suppose.
Ben, écoutez, oui, je crois, parce qu'effectivement, nous, le sujet qui s'est rapidement imposé, c'était l'état de l'environnement, le climat, la pollution et des choses comme ça. Des thèmes qui, à l'époque, on est en 68, n'étaient pas encore très en mode. Et là, je crois que le CNRS avait vu juste de nous ajouter cette appellation.
Donc vous étiez précurseur dans ce domaine.
C'est pas moi qui ai baptisé le labo. Hein. Donc oui, c'est vrai que les choses qu'on faisait étaient nouvelles et que c'était les premières fois qu'on voyait qu'à partir de l'étude de ces glaces polaires, on pouvait dire des tas de choses sur les conditions de l'environnement de la planète.
Et alors, non content de vos outils, vous vous lancez dans la construction d'une machine qui va vous permettre de forer jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Là, c'est un outil que vous n'avez pas, que vous allez créer. Comment ça se passe?
Bon,
et pourquoi vous le faites?
D'abord, la première chose, le fait d'aller à Grenoble. Jusqu'alors, si vous voulez, moi, je travaillais sur une péniche au pont de Saint-Cloud. Et j'avais la chance de pouvoir faire des analyses dans les laboratoires de Saclay. ce qui a changé, on continue toujours et on continue encore à faire des analyses avec les labos de Saclay, mais on pouvait pour la première fois monter des labos de mesure à Grenoble, avoir une équipe, des choses fixes, et puis effectivement se mettre à penser. Moi, j'ai pas construit l'outil à forer dans la glace, mais donc il y avait une équipe de techniciens à Grenoble qui a commencé à développer ça. Et l'idée, bien sûr, c'était de se munir d'un outil pour nous permettre, après qu'on a explorer certains secteurs de l'Antarctique, pour nous permettre d'aller dans des points, creuser en profondeur, pour remonter dans le temps.
Là, vous finissez par avoir l'outil en question, mais vous n'avez pas forcément les moyens pour aller dans la zone centrale de l'Antarctique pour pouvoir faire ce forage. Alors, comment ça se passe? Vous commencez à interpeller les Américains, les Suisses, pour pouvoir mener une opération commune?
Attendez, d'abord, on n'interpelle personne. Ça se passe très bien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, si vous voulez, cette année géophysique, d'un de ses grands mérites, c'est que c'est les scientifiques qui l'ont décidé, c'est les scientifiques qui ont collaboré et qui ont, je dirais, entraîné les politiques à signer un traité qui s'appelle le traité de l'Antarctique, et qui fait de ce continent un traité tout à fait particulier, qui n'appartient à personne, qui est réservé à la science.
À la recherche.
Donc nous, les scientifiques, nous nous réunissons dans un comité qui s'occupe des recherches en Antarctique, et c'est là qu'on bâtit ensemble des projets. Guerre froide ou rupture diplomatique, les scientifiques sont assez... s'extrait un peu de ces contextes parfois difficiles et monte des opérations ensemble. Donc en l'occurrence, à l'époque, c'est les Américains qui m'ont offert de transporter nos équipements, notre équipe, pour aller faire un forage, cette fois qui n'était plus de l'ordre de la centaine de mètres, mais de 1000 mètres de profondeur, dans une région centrale de l'Antarctique.
Une zone soviétique ?
Non, on est... Je dirais encore dans le secteur français, bien qu'il n'y ait pas de secteur français, mais on est assez loin, 1400 km de la côte, et nous, on ne peut pas y aller avec les moyens de raid, les véhicules français, et donc les Américains acceptent de nous emmener. D'abord, on fait une petite opération de reconnaissance, on fait quelques prélèvements, on mesure quelques données, et puis, les Américains perdent deux avions dans cette opération.
Là on arrive en 1974, où effectivement il y a un avion qui s'écrase au décollage, avec des membres de votre équipe, même peut-être vous, je ne sais pas, mais heureusement il n'y a pas de mort, heureusement.
Effectivement, en 1974, on nous a déposés à quelques-uns. Il y avait trois Français, il y avait un Russe, un Américain, pour faire quelques prélèvements, voir si le site était favorable à un forage. Mais ces avions, qui sont des C-130 équipés de ski, au décollage, effectivement, il y a des turbines sur le côté pour les aider à décoller. L'une de ces turbines explose et puis l'avion se retrouve au sol. En fait, on aura deux accidents successifs. Et nous sommes bien sûr dedans, mais à chaque fois, on rajoute l'équipage de l'avion d'avant, ainsi de suite. Et finalement, c'est un troisième avion qui lui ramenait une campagne, des gens d'une campagne au pôle sud. Enfin, c'était vraiment un scénario un petit peu catastrophe. Il y avait en tout et pour tout 5 avions dans l'Antarctique, et il y en avait 3 qui étaient sur notre site, dont 2 complètement immobilisés. Et puis, ça s'est bien passé. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que 2 ans après, les Américains m'ont offert de nous ramener pour faire ce forage de 1000 mètres.
Ce forage se passe toujours au même endroit ?
Alors, ce forage, il est dans un site que l'on appelle le Dôme C, la station Concordia maintenant, parce que là où nous avons foré à cette époque, c'est là que les Français vont installer une nouvelle station d'hivernage en Antarctique pour l'année géophysique internationale qui débute. Donc moi j'étais là sur le site une trentaine d'années avant, c'est là que nous avons fait nos premières campagnes, découvert ce site, et où a eu lieu ensuite dans ces dernières années un forage européen qui va permettre d'atteindre 800 000 ans d'archives. Mais enfin là on est en train d'avancer
oui,
un petit peu trop loin.
Oui, on a avancé un peu vite. Mais alors,
en tout cas, ce site, c'est celui-ci. Celui où nous avons eu les Américains comme support, où nous avons fait le premier forage, eh bien c'est maintenant un site qui sert, où s'implante la nouvelle station française Concordia, après qu'on ait réussi un forage dans la glace européen.
Alors voilà ce forage de 1000 mètres. Il va vous permettre de conforter vos analyses.
Donc ça, c'est le premier forage qu'on fait. Hein. Donc 74, des accidents. 3 ans après, les Américains nous ramènent. On descend à 1000 mètres de profondeur. Ce que ce forage nous amène, c'est qu'on remonte à 30 000 ans à peu près d'histoire du climat. Ça veut dire qu'on remonte dans la dernière époque glaciaire qui s'est terminée il y a 20 000 ans. Et c'est là, si vous voulez, que l'idée qu'on avait eue que les bulles d'air qu'il y a dans la glace pouvaient refléter la composition de l'atmosphère, eh bien pour la première fois, on montre que la composition de l'atmosphère a changé en même temps que le climat, notamment pour ce qui concerne les gaz à effet de serre, dont tout le monde entend parler, qui s'appellent par exemple le gaz carbonique ou le méthane. Donc on a là vraiment une première indication, une première piste ouverte qui nous dit oui, la glace donne bien la composition de l'atmosphère et il semble qu'il y a un lien entre la composition de l'atmosphère et le climat.
Concernant ces bulles d'air qui sont enfermées dans ces glaces, vous avez une petite anecdote à nous raconter sur un whisky au glaçon d'il y a 100 000 ans et qui vous a permis justement de faire cette petite réflexion sur ces bulles d'air.
Oui, bon, la glace à l'époque n'avait pas 100 000 ans, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu honte de dire, mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps boire un verre de whisky. Et là, on avait fait un forage dans la glace, c'était la glace côtière d'ailleurs de Terra Delhi. Et on avait dit, bon, on fait des analyses avec les morceaux de glace, mais enfin, il nous reste toujours des petits bouts. Et donc, on met un bout de glace, prélevé en profondeur, dans le whisky. Et puis, on philosophait un peu, vous savez, une certaine heure, la nuit, tout ça, les hommes tout seuls. On voit cette glace fondre et on voit que les bulles qu'il y a, parce que la glace qui se forme à partir de la neige, elle contient des bulles d'air, et on voit que ces bulles explosent. Et donc, je me suis dit, mais si elles explosent, c'est qu'elles ont conservé la mémoire, qu'elles étaient profondes, elles sont sous pression, et peut-être qu'elles ont conservé la composition de l'atmosphère.
Ce qui était tout à fait le cas pour le
coup. Oui, alors entre le moment où cette idée, dont peut-être je peux revendiquer la paternité, et le fait qu'on la démontre, ça a pris pas mal d'années, et pas mal de chercheurs qui ont aidé à résoudre ces problèmes, notamment dans mon laboratoire à Grenoble.
Donc, dans les années 74, vous faites ce forage de 1000 mètres, enfin 3 ans après en tout cas.
Où, oui,
voilà,
vous réussissez à faire. 78 qu'on 78, réussit le forage. Oui.
Voilà. Et puis, vous réalisez une autre série d'échantillons qui existent à la station Vostok cette fois-ci. Et là, qui ont également une couleur particulière, puisque Vostok, c'est quand même particulier. C'est la zone la plus froide du monde. Il fait moins 70 degrés en moyenne.
L'hiver,
voilà, avec des pointes à moins 89 et moins 40 l'été. Et donc, vous arrivez à faire un forage à Vostok, qui est cette fois-ci une zone, si on peut parler de zone soviétique.
Oui,
alors, en pleine période de la guerre froide, il faut préciser.
Oui. Si vous voulez, tout ça s'enchaîne un peu. On a eu cette opération de forage à 1000 mètres. On a eu des indices que les gaz à effet de serre, ça joue un rôle pour le climat. Et on avait eu le support des Américains. Et donc, ça nous a fait connaître. En plus, en même temps, si vous voulez, moi, j'ai pris du grade. Je suis devenu directeur du laboratoire à Grenoble. J'étais dans le comité international des recherches antarctiques. J'avais beaucoup de contacts. Et en particulier, j'ai eu des contacts privilégiés avec les Soviétiques. C'était la guerre froide, mais on se rencontrait et on était très, très amis.
Et puis, comme vous l'indiquiez, c'est vrai que sur cette zone-là, c'était une zone un peu internationale, pour le coup.
Sur le principe, oui. C'était pas non plus tellement facile à faire, parce que les opérations... Pour aller à la station Vostok, bien sûr, on ne pouvait pas y aller avec les moyens français, et on avait absolument besoin des moyens américains. Et donc, c'était quand même pas évident, la guerre froide.
Donc, vous preniez un avion américain pour arriver à Vostok.
On ne le prend pas, on nous accepte.
C'est
l'US Navy, hein, si vous voulez, c'est l'armée. Donc, c'est vous dire qu'il y a vraiment une structure complètement indépendante des frictions internationales qui fonctionne. Des gens qui ont le pouvoir de décision du côté russe, américain et du côté français. Moi, j'étais avec le directeur des expéditions polaires françaises. Et on décide qu'on va tenter cette opération. Et on va effectivement monter cette opération. Jusqu'au dernier moment, on ne saura pas, parce que les relations radio, elles sont officielles, on ne saura pas que les Russes ont pu préparer une piste pour l'avion américain. Les Américains décident d'y aller. Et donc, on débarque à la station Vostok. Et là, je le savais, il y a une mine d'or. À savoir 150 000 ans d'archives. Les Soviétiques ont foré à plus de 3000 mètres de profondeur. Ils ont mis des années. Et c'est nous qui allons analyser ces forages, en collaboration, bien sûr, avec eux.
C'est à ce moment-là que donc, vous allez pouvoir faire le rapport entre climat et effet de serre.
Oui, ce pas était extrêmement important, si vous voulez, parce que le climat de la Terre, à l'échelle du quaternaire, comme on dit, du million d'années, il est gouverné par la succession de climats chauds, comme on a maintenant, et de climats froids, comme il y avait il y a 20 000 ans. Et cette succession de climats, qui était, c'est pas nous qui l'avons décrite pour la première fois, qui est causée par la trajectoire de la Terre autour du Soleil, qui fait un petit peu changer l'énergie que reçoit la Terre. Donc ces variations naturelles de chaud et de froid ont pris place depuis des centaines de milliers d'années. Mais vraiment, la révélation qui est venue des carottes de glace, c'est que en dehors de cette action, je dirais, de la position de la Terre par rapport au Soleil, et donc une cause astronomique de ces grandes variations du climat, eh bien, on a montré qu'il y avait un lien aussi avec la composition de l'atmosphère. Il y avait, en période chaude, beaucoup plus de gaz carbonique. C'est pas l'homme qui émettait le gaz carbonique. Le fait que le climat changeait faisait changer la composition de l'atmosphère, qui amplifiait les variations initialement du climat, initialement dues aux conditions astronomiques, si vous voulez. Donc, on a donc pour la première fois montré qu'il y avait un lien entre les gaz à effet de serre et l'évolution du climat.
Et là, c'est une grande avancée pour le coup.
Ben, si vous voulez, parce que déjà, depuis pas mal de temps, les physiciens avaient dit que si on changeait le gaz carbonique dans l'atmosphère, ça ferait chauffer le climat. Il n'y avait pas d'évidence, et comme vous le savez aujourd'hui, le problème numéro un dans cette histoire d'évolution du climat qui nous concerne tous, c'est qu'est-ce qui va se produire avec les émissions de gaz carbonique à effet de serre. Donc on mettait pour la première fois le doigt sur une possibilité. Voilà ce qu'il y a eu dans le passé, à de fortes valeurs de concentration de l'atmosphère en gaz carbonique, il y a un climat plus chaud.
C'est la première fois qu'on parle de réchauffement du climat à ce moment-là ? Ou c'était déjà quand même, les thèses étaient déjà avancées ?
Si vous voulez, à l'époque où on a fait ça, je dirais qu'on ne parlait pas beaucoup encore du réchauffement climatique. Et cette trouvaille nous a valu que M. Rocard, qui est le Premier ministre, m'a demandé d'aller lui en parler, que le Sénat américain nous a demandé d'aller là-bas, qu'on a fait les premières des magazines comme Nature ou Science.
Oui,
c'était vraiment quelque chose, vraiment une ouverture.
Vraiment une ouverture. Effectivement, votre conclusion dans Nature, donc vous dites, la planète devrait sensiblement se réchauffer au cours du 21e siècle, donc actuellement, au risque d'affecter les ressources en eau, l'agriculture, la santé, la biodiversité et d'une façon générale, les conditions de vie des humains. Alors effectivement, pour nous, actuellement, ça nous semble logique, mais à cette époque, c'était, comment dire, une avancée, en tout cas, une ouverture, comme vous le disiez tout de suite.
Mais, si vous voulez, parce que, en fait, l'histoire, c'est de montrer que la composition de l'atmosphère peut jouer sur le climat. Donc ça, c'était l'idée fondamentale. Mais dans les glaces, on est allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire que le gaz carbonique dans l'atmosphère, on ne le mesure que depuis une quarantaine d'années. On n'avait aucune idée de ce qui s'est passé avant. Et la chose que nous avons aussi montré, quand je dis nous, cette fois, on n'était pas là, pour Vostok, on était vraiment les seuls, mais après, il y a eu plusieurs équipes américaines, suisses, qui ont montré ça. On analyse non seulement ce qui se passe sur des centaines de milliers d'années, mais ce qui se passe depuis le dernier millénaire, depuis le dernier siècle. Et donc, alors qu'on n'avait pas de mesures dans l'atmosphère, on a montré, d'après les mesures faites sur les bulles contenues dans la glace, bien que le CO2, il s'envolait littéralement, le méthane aussi. Et donc, on voit bien que l'idée devenait relativement claire. Dans le passé, le CO2 a joué un rôle. On fait monter le CO2, le climat commence à se réchauffer, et maintenant c'est quand même une théorie qui est communément admise. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment adoucir ces émissions de gaz carbonique qui augmentent, comme on dit, de façon exponentielle, depuis plus en plus rapidement, année après année.
Alors, puisque ces gaz à effet de serre existaient déjà avant l'homme, est-ce qu'il suffirait que l'homme essaie de réduire un tout petit peu ses émissions de gaz à effet de serre pour que la planète puisse aller mieux finalement?
Oui, bien sûr. Seulement, ce n'est pas un tout petit peu, parce qu'on est largement au-dessus de toutes les valeurs naturelles qu'on a pu mesurer justement dans les carottes à partir des centaines de milliers d'années. Et que, comme vous le savez, on n'est pas prêt à économiser l'énergie ou à avoir d'autres sources d'énergie qui puissent éviter ces émissions de gaz à effet de serre. Donc actuellement, oui, si on arrivait à limiter les émissions, ça ne se produirait pas tout de suite, hein, parce que de toute façon, il y a une grande inertie dans l'atmosphère, dans l'océan, et même si on arrêtait aujourd'hui, le climat continuerait à se réchauffer. Mais bon, au bout de quelques décennies, c'est vrai que l'amplitude du réchauffement, qui est quand même critique et très difficile à déterminer, eh bien, oui, c'est ce qu'il faudrait faire. On ne sait pas comment faire.
Alors en cela, par exemple, le rapport de Kyoto, qui devrait être ratifié peut-être par les États-Unis un jour, vous pensez que ce serait une bonne chose, ce serait une avancée, ou alors faudrait déjà aller plus loin directement?
Ben, le rapport de Kyoto, d'abord, il ne faut pas toujours décrire les Américains comme complètement opposés. Nous, on sait que beaucoup de chercheurs sont de l'avis général des chercheurs, je dirais. On sait aussi que certains États ont pris déjà des mesures et des décisions. Les Américains ont une position qui, effectivement, privilégie l'économie et qu'à court terme, c'est quand même un problème, effectivement, de remplacer le pétrole parce qu'ils en ont pas mal. Bon. Kyoto, oui, mais Kyoto, ça fait déjà quelques années. Mais en fait, on n'a rien sous la main actuellement. Et vous savez bien que le débat actuel, c'est quelle autre énergie? Est-ce que c'est le nucléaire? Est-ce que c'est l'éolienne? Est-ce que c'est... Et là, j'avoue que moi, je ne suis pas plus compétent que n'importe qui. C'est un choix nécessaire, mais difficile, où il faudrait concilier un petit peu, je dirais, l'aspect écologique, qui est préserver la nature, avec les aspects économiques. Il faut aussi que la Terre tourne, et qu'on n'a pas sous la main actuellement de solution. Le nucléaire, c'est pas forcément pour demain, c'est pas forcément la seule solution, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose, à part le fait, je dirais, d'éduquer les gens, qu'on soit tous conscients qu'on est responsable de cette évolution. Mais vous savez aussi que les Français, ça pèse très peu face à des pays comme la Chine ou l'Inde qui vont brûler du charbon au lieu de brûler du pétrole. Donc je pense qu'il y a une situation là très difficile. Hélas, la seule façon peut-être qui permettrait vraiment d'avoir des décisions catégoriques et qui permettrait d'avancer, ce sont les catastrophes naturelles. On ne sait pas très bien si...
Vous pensez qu'une catastrophe naturelle pourrait remettre les choses à zéro?
Écoutez, la canicule, les inondations, dont on n'est pas très sûr qu'elles soient liées à ce réchauffement. Mais au moins, ça frappe l'opinion. En tout cas, en France, il faut bien comprendre que ceux qui décident, ce sont les économistes, ce sont les politiques. Et la durée de vie d'un politique, c'est 4 ans. Un politique qui veut mettre une taxe sur les 4x4, pour prendre un exemple banal, il se suicide. Donc vous voyez bien qu'on a là vraiment une difficile chose. Nous, notre rôle de scientifique, je pense, c'est d'avoir alerté l'opinion, et je crois qu'on a réussi. Mais pour ce qui me concerne, en tout cas, on n'a pas de solution comme ça.
Alors, une dernière question juste avant notre seconde pause. Votre point de vue de scientifique, si les choses tardent à se faire, après ça va être donc le réchauffement climatique qui est déjà en place, mais ça va être la fonte des glaciers, et c'est une montée des eaux de l'ordre de combien? 10 mètres, 20 mètres, si les glaciers fondent, ce qui est déjà le cas en même temps.
Bon, attendez, là, il ne faut pas non plus complètement oui. S'affoler. Que les glaciers de nos montagnes fondent, je dirais qu'à 90% c'est le cas sur le globe. Mais en ce qui concerne la hausse du niveau des mers, c'est quand même pas grand-chose. On sait aussi que la
hausse... On sait que les icebergs en tout cas fondent en même temps.
Oui, mais bon, si vous voulez, là il y a des notions un petit peu fondamentales. Une glace qui flotte, si elle fond, elle ne fait pas monter le niveau des mers. C'est comme un petit morceau de glace dans un whisky.
Il a montré qu'il y avait des bulles. Exemple du whisky.
Oui, mais néanmoins, quand le glaçon fond, vous vérifierez, le niveau ne change pas dans le verre. Donc, c'est pas le problème, par exemple, de la fonte des banquises qui va faire, et Dieu sait si elle est importante et marquée, importante pour d'autres raisons, mais elle ne va pas faire monter le niveau des mers. Nos glaciers font monter le niveau des mers, mais pas beaucoup. Ce qui fait monter le niveau des mers actuellement, c'est le fait que l'océan se réchauffe. Il se réchauffe, il se dilate. Là où le danger viendrait, mais on n'est pas à l'échelle de temps des années, c'est plutôt les décennies, les siècles ou au-delà, c'est si les calottes polaires, les Inlandis, comme on les appelle, se mettent à fondre. Parce que le Groenland, c'est l'équivalent de 7 mètres, l'Antarctique, c'est l'équivalent de 70 mètres. En termes, si vous voulez, s'il n'y a pas de glace, qu'est-ce que ça donne comme eau? Enfin, on n'en est pas là.
C'est une vision à long terme.
J'espère que c'est une vision qu'on n'atteindra pas. Et qu'on aura trouvé une solution d'ici là.
On marque une dernière pause, Claude Lorius. On se retrouve tout de suite après pour la fin de notre habit vert. A tout de suite.
Canal Académie vous propose de retracer les migrations des hommes préhistoriques. Comment et pourquoi les hommes fossiles sont-ils passés d'un continent à un autre? À partir de quand parle-t-on d'hominidés et non plus de primates? Réponse en compagnie d'Henri de Lumley, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de l'Académie des sciences. Ce préhistorien mondialement connu nous livre un exposé passionnant dans notre émission Éclairage, émission en libre téléchargement sur Canal Académie.
Suite de notre émission Habit vert en compagnie de Claude Lorius. Claude Lorius, on a donc abordé une grande partie de vos expéditions au Groenland, surtout en Antarctique. Tout. Et on arrive dans les années 90, où là, vous allez pouvoir vous poser, entre guillemets, un peu plus. Et vous allez participer à la mise en place de l'Institut français pour la recherche et la technologie polaire en 90. C'est un projet qui vous tenait à cœur à cette époque?
Oui, on avait un peu de problème. Il s'agissait de pérenniser un petit peu la structure qu'avait créée Paul-Émile Victor et qui méritait un statut un peu plus officiel.
Avant, c'était une association, c'est ça?
C'était une association, oui. Et donc, c'était une idée d'Hubert Curien, qui était à l'Académie des sciences et ministre alors de la recherche, et qui m'avait demandé si je voulais bien l'aider à créer l'Institut polaire.
Qui existe toujours?
Alors, l'Institut polaire, il a changé un petit peu de nom. Il s'appelle maintenant de nouveau l'Institut pour l'Émile Victor. Mais enfin, c'est celui-ci. Et c'est l'organisme qui vraiment supporte toutes les activités de la France dans les recherches polaires. C'est donc quelque chose maintenant de pérennisé. Et un des grands mérites de Victor, c'est qu'effectivement, il nous a laissé en héritage cette possibilité d'avoir une structure qui permet aux chercheurs de travailler, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de domaines de noms très connus.
Donc l'Institut Paul-Émile Victor est très ancré dans la recherche?
Tout à fait, c'est lui qui supporte toutes les opérations que nous menons dans les régions polaires pour la recherche.
Alors, à cette même époque, vous lancez également le projet EPICA avec l'aide pour la Fondation européenne. Alors, EPICA signifie European Program for Ice Coring in Antarctica.
Bon, enfin, donc, c'est donc effectivement, j'ai eu la chance d'être dans un groupe de travail qui voulait mettre en place des grands défis. Et effectivement, nous avons monté, avec le soutien de l'Europe, un programme de forage polaire en Antarctique qui s'appelle EPICA.
Donc 10 pays européens?
Alors 12 à ma connaissance, mais enfin, donc il y en a en gros une douzaine, ce qui était quand même bien, entièrement financé par l'Europe et qui a montré justement la capacité des scientifiques européens de travailler ensemble. Moi, ce projet, je l'ai initié, ce n'est pas moi qui l'ai mené. Il y a des gens comme Jean Jouzel, Dominique Reynaud, qui sont très ancré dedans. Il y a une douzaine de pays et c'est une grande réussite. Vostok nous a mené jusqu'à 400 et quelques milliers d'années. Là, on est à 800 000 années. Et ça a une certaine importance parce que le climat, là, de changement naturel, bien sûr, c'est un petit peu différent. Donc, on ouvre encore de nouvelles portes. Les analyses sont encore en cours, mais c'est encore quelque chose qui sera une avancée.
Alors, ces chercheurs européens arrivent à faire des forages, cette fois-ci, de 3 000 mètres, en tout cas plus de 3 000 mètres de profondeur. On va toujours plus loin.
Attendez, d'abord Vostok, c'était aussi plus de 3000 mètres. Là, c'est, bon, la profondeur aussi, c'est de l'ordre de 3500 mètres, peu importe. Il n'y a pas que la profondeur qui compte. Quand vous êtes dans un endroit où il ne tombe pas beaucoup de neige, vous avez beaucoup d'années. Quand vous êtes dans un endroit où il tombe plus de neige, vous avez moins d'années. Mm-hmm. Et donc, il faut moduler. Il n'y a pas que la profondeur. L'important, c'est, en gros, on va arriver jusqu'à 1 million d'années et on n'ira pas plus loin, d'après les archives, aussi bien au Groenland, qui elles sont beaucoup plus réduites, qu'en Antarctique.
Mais tout ça pour dire que finalement, si je parle de ce forage de 3000 mètres, c'est parce qu'il a été fait au même endroit que le premier que vous avez fait il y a une, oui, 25-30 oui. ans. Et c'était 900 mètres à l'époque, et oui. c'était déjà énorme.
Oui.
Donc pour dire les avancées qui ont pu être faites en
oui,
l'espace
il y a deux
de
types d'avancées, si vous voulez. Il y a les avancées, effectivement, d'instrumentation de forage. Il y a aussi les avancées concernant les possibilités d'analyse. On est capable maintenant de mesurer vraiment des micro-quantités d'impuretés dans les glaces, des choses qu'on ne savait pas faire avant. Donc l'éventail des paramètres que l'on arrive à reconstituer, ça va de mieux en mieux, d'année en année.
Parmi les analyses que vous pouvez faire, en regardant donc les teneurs en CO2 et tout ce qui va avec, finalement, en résumé, vous trouvez que le système climatique de la Terre s'autorégule finalement. C'est-à-dire que malgré toutes les petites catastrophes qu'il peut y avoir, la Terre arrive à garder un niveau stable, en fait, au niveau de ses gaz à effet de serre, et au niveau de son CO2.
Oui, enfin, il faudrait utiliser le passé, c'est-à-dire
oui.
se réguler.
Se réguler,
pardon. C'est justement
pardon.
Bien ça le problème, c'est que si la Terre, effectivement, elle se récupérait naturellement, eh bien, on est sorti complètement de cette échelle. Et les teneurs en gaz à effet de serre n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a pu mesurer sur le dernier million d'années. Donc, il faut bien comprendre que, justement, l'homme, qui avant subissait le climat, eh bien, l'homme est maintenant devenu un acteur important dans les modifications de climat. Et Dieu sait si le climat, ça intéresse tout le monde. Que ce soit pour vos vacances, les ressources en eau, la biodiversité, les ours au Groenland, le niveau des mers. C'est vraiment quelque chose qui conditionne la vie de notre société.
On est toujours à la fin des années 90, milieu des années 90. Et avec cette époque correspond également des prix. Puisque vous allez recevoir à la même période beaucoup de prix qui justement vont couronner vos recherches, vos analyses, vos découvertes. Alors déjà en 89, on revient un petit peu en arrière, vous recevez le prix Humboldt. Alors qu'est-ce que ce prix Humboldt ?
Oh ben, le prix Humboldt, c'est un grand explorateur scientifique, donc c'est un prix allemand qui a étudié pas mal de choses dans les Amériques, quoi. Donc ils en avaient fait un prix. Oui.
Également, la même année, le prix Belgica.
Oui.
En 94, le prix Italgas.
Oui.
En 96, le prix Tyler pour les sciences de l'environnement.
C'est un prix américain, ça.
Oui, prix ouais, Tyler, ouais. prix américain. Et puis le prix Balzan 2001, qui a une grande importance, puisque l'argent qui va avec va vous permettre de pouvoir financer les projets d'étudiants.
Voilà, c'est effectivement un prix dont une partie doit être utilisée pour financer des projets de recherche, c'est-à-dire que même à mon âge, on peut donc encore soutenir des recherches. Et d'autre part, effectivement, ça me donne une autonomie pour faire un certain nombre de choses. Donc, beaucoup d'argent, et je trouve que c'est très bien. Vous savez, il y a plusieurs Français qui ont eu ce prix. Mais les choses peut-être qu'on peut citer, c'est que tout ça est quand même venu après mon entrée à l'Académie.
Voilà, votre entrée
Alors,
en 94 en tant que membre.
L'entrée à l'Académie a un petit peu aidé à enclencher tout ça, oui.
Vous étiez déjà quelqu'un de connu à cette époque-là, puisque vous aviez quand même pas mal communiqué dans les médias.
Oui, j'étais... Bon, mais vous savez, c'est deux choses un petit peu différentes. On peut être très connu dans les médias, on peut aussi ne pas avoir de reconnaissance scientifique. Donc ces deux choses, bon, moi je suis à peu près arrivé à mener ça ensemble, et c'est vrai, mais quand même je pense que l'Académie m'a aidé à faire ça. Il y a eu aussi d'autres épisodes, un livre chez Odile Jacob, des choses qui ont été bien lues, popularisées, et puis il y a quand même deux choses importantes que vous n'avez pas mentionnées. La première, c'est en 2002 la médaille d'or du CNRS,
la médaille
parce
qu'il
y a bien longtemps avec Jean Jouzel. Il y a bien longtemps qu'il n'y avait pas eu de scientifique naturaliste, si je peux utiliser ce mot, de couronné dans cette médaille d'or. Et l'autre, c'est le Petit Larousse illustré.
Alors j'allais y venir, le Petit Larousse illustré, puisque c'était en 2004.
Voilà,
le Petit Larousse illustré, donc votre nom,
vrai.
À la section nom propre bien sûr. On retrouve Laurius Claude avec les informations vous concernant.
Oui, avec quelques informations, mais enfin, c'est surtout le fait d'être dedans qui frappe par exemple les enfants, hein, les petits-enfants. Bon.
C'est bien pour terminer cet habit vert que de savoir que vous êtes entré dans le dictionnaire, le Petit Larousse illustré. Merci Claude Laurius d'avoir passé une heure avec nous, en notre compagnie. Merci de nous avoir donné ces nombreux éléments de votre vie, de votre carrière. Canal Academy vous remercie. Oui, vous aviez un dernier mot.
Oui, je voudrais encore ajouter un petit quelque chose justement là, dans ces turbulences actuelles concernant le soutien de la recherche.
Vous
savez,
bien sûr.
Il y a beaucoup de problèmes,
dites-nous.
Je veux dire. Je trouve que ce que j'ai eu la chance de faire, vous voyez le temps que ça a pris. Je dis, il a fallu 10 ans pour établir cette relation, il a fallu y aller. Enfin, bon, on nous a soutenus, mais si on avait dû justifier qu'on allait déboucher sur les affaires du climat, jamais j'aurais eu de support. On ne savait pas. Donc je veux dire, il faut, l'important me semble est de conserver une part de recherche fondamentale qui n'a pas d'application immédiate. Je crois que ce qu'on a fait est un exemple vraiment caractéristique. On n'a pas fait ça pour arriver là où nous sommes arrivés.
Vous, si vous le tenez à le souligner, c'est parce qu'actuellement vous pensez qu'on laisse une part un peu moins importante.
Je pense que il y a un petit peu une remise en cause parfois, oui, de la recherche qu'on veut trop guider, trop canaliser. Je veux dire, ce genre de choses ne serait jamais arrivé dans une recherche préprogrammée.
Eh bien, merci Claude Laurius, merci de nous avoir accordé tout ce temps. On vous souhaite peut-être une bonne continuation, puisque
finalement,
continuez de votre côté vos recherches.
On est d'accord.
On vous souhaite une bonne continuation alors, et puis à très vite pour nos internautes, une émission donc, que vous pourrez retrouver en médiathèque. Merci beaucoup, au revoir.